Vous écoutez, on lit pour vous.
Quel pape a eu une fille? Un texte de Kofi Serge Engesson paru le 23 avril 2025 dans Paris Match. Plusieurs papes dans l'histoire de l'Église catholique ont enfreint la règle du célibat, allant jusqu'à avoir des enfants. Parmi eux, certains ont eu des enfants, parfois avant, parfois après leur ordination, dans un contexte où la discipline du célibat n'était pas toujours fermement établie. Mais de qui parle-t-on exactement? Voici ce que révèle l'histoire, document à l'appui. Loin des figures austères et intouchables que l'on pourrait imaginer, de nombreux papes ont eu des parcours amoureux parfois complexes, souvent cachés et parfois publiquement assumés. Alors que l'Église catholique impose depuis le XIIe siècle le célibat à ses prêtres, de nombreux pontifes ont eu des enfants. À travers l'exemple de plusieurs papes ayant eu des filles, on découvre une histoire du Saint-Siège plus humaine, mais aussi plus trouble. Qui sont ces hommes d'Église qui furent aussi pères de famille? Et que nous disent-ils sur la discipline du célibat sacerdotal? Quel pape a eu une fille avant d'entrer dans les ordres? Clément IV, pape de 1265 à 1268, est l'un des exemples les plus documentés. Avant de devenir prêtre, il était marié et père de famille. Il eut plusieurs enfants, dont deux filles, selon les archives. L'une d'elles se prénommait Mabili. Il entra dans les ordres après la mort de son épouse, respectant ainsi les règles ecclésiastiques en vigueur à l'époque, qui n'interdisaient pas à un homme marié devenu veuf d'accéder à la prêtrise. Autre exemple, Adrien II, pape de 867 à 872, était également marié et père d'une fille avant son ordination. Sa femme, Stéphanie, et sa fille vivaient même avec lui au palais du Latran, ce qui, bien que rare, n'était pas interdit avant que l'Église ne durcisse sa discipline. Tragiquement, toutes deux furent assassinées dans des circonstances politiques complexes liées à des rivalités internes au Vatican. Quels papes ont eu des filles après leur ordination? Parmi les cas les plus notoires figurent Jules II, pape de 1503 à 1513. Avant son élection au pontificat, mais après sa consécration comme évêque, il eut trois filles illégitimes, dont Felice della Rovere, née en 1483. Cette dernière devint une figure marquante de la noblesse italienne, renforçant les alliances politiques de son père. Jules II illustre ainsi comment certains papes parvenaient à concilier carrière ecclésiastique et intérêts familiaux. Autre figure majeure, Paul III, 1534-1549, qui eut quatre enfants illégitimes avec sa maîtresse Silvia Ruffini, parmi lesquels une fille. Cette relation débuta après sa nomination comme cardinal diacre, marquant ainsi une infraction directe aux règles du célibat sacerdotal. Ses enfants jouèrent un rôle important dans les affaires politiques italiennes, notamment son fils, Pierre-Louis Farnese, duc de Parme et Plaisance. En revanche, Grégoire XIII, 1572-1585, bien qu'il ait eu un enfant après son ordination sacerdotale, n'eut qu'un fils, Giacomo Boncompagni, né de sa relation avec Maddalena Fulcini. Aucune fille n'est mentionnée dans son cas. Dans un tout autre registre, plus récent et moins charnel, Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005, n'a pas eu d'enfant, mais a entretenu une relation intime, bien que platonique, avec Anna Teresa Timienieka, philosophe américaine d'origine polonaise. Cette relation, révélée par près de 400 lettres échangées entre les deux, témoigne d'une profonde complicité intellectuelle et émotionnelle vécue dans les limites du célibat sacerdotal. Cette amitié a été scrutée par le Vatican, dissimulée aux yeux du grand public, mais elle révèle un besoin de proximité affective et d'échange spirituel chez Carol Wojtyla. Elle interroge aussi les limites du célibat, non pas dans sa dimension sexuelle, mais dans sa réalité humaine. Jean-Paul II n'a pas eu d'enfant biologique, mais il reste un exemple marquant de pape dont la vie intime a été nourrie de relations féminines significatives. Le célibat, une règle de discipline, pas un dogme. L'examen de ces cas montre que le célibat sacerdotal n'a jamais été une règle uniforme dans l'histoire de l'Église. Pendant des siècles, les prêtres, évêques et même papes étaient mariés ou devenaient prêtres après veuvage. Le deuxième concile du Latran, en 1139, marque un tournant. Seuls les hommes ayant fait vœu de célibat peuvent désormais être ordonnés dans l'Église latine. Mais cette décision repose sur des enjeux politiques et économiques, notamment l'interdiction de transmettre les biens ecclésiastiques à des héritiers. Aujourd'hui encore, les églises catholiques orientales autorisent le mariage des prêtres tant que celui-ci précède l'ordination. La règle du célibat ne relève donc pas du dogme, mais d'une discipline propre à l'Église latine, modulable selon les époques, les cultures, voire les besoins géopolitiques. En somme, Clément IV, Adrien II, Jules II et Paul III sont des exemples de papes ayant eu des filles, révélant les tensions historiques entre discipline ecclésiastique et réalité humaine. C'était « Quel pape a eu une fille ?» un texte de Kofi Serge Engesson, paru le 23 avril 2025 dans Paris Match.
Que se passe-t-il avec les pistaches au Québec? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 25 septembre 2025 dans La Presse. Des pistaches contaminées ont été distribuées à travers le pays et se sont retrouvées dans de la crème glacée, du halva, des baklavas ou dans le fameux chocolat Dubaï. Les rappels d'aliments se multiplient. Les cas d'infection à la salmonelle aussi. Le point en 5 questions. D'où viennent les noix problématiques? La majorité des pistaches qui se trouvent sur le marché québécois proviennent de la Californie, de la Turquie et de l'Iran. D'autres pays producteurs, comme la Grèce, la Syrie ou même l'Espagne, sont aussi des fournisseurs pour les importateurs québécois. Les quantités importées par pays varient d'une saison à l'autre, selon les récoltes et les prix qui fluctuent grandement. Dans ce cas-ci, les pistaches contaminées sont originaires d'Iran. Ce n'est pas la première fois que des pistaches iraniennes posent problème, puisqu'elles ont été bannies d'Europe temporairement en 2024, après que l'on a détecté un taux trop élevé d'une toxine provoquée par la moisissure, l'aflatoxine. Où retrouve-t-on les pistaches contaminées? Partout au pays. Mais le Québec est la province la plus touchée, avec 35 rappels de produits depuis le printemps. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC, a émis 18 avis concernant des pistaches problématiques uniquement depuis le début du mois de septembre. On parle de pistaches vendues telles quelles, en vrac, ou transformées ici, dans des pâtisseries, de la crème glacée ou du chocolat Dubaï. Depuis le 22 septembre 2025, 8 nouveaux rappels ont été émis. Ils concernent des pistaches vendues chez le Roi des Noix, la Maison des Noix, la Pistacherie, la fabrique de noix, le supermarché Danica, le marché Nouveau et le marché 786, ainsi que du chocolat Dubaï vendu à la confiserie Sour Bites. Tous sont des commerces montréalais. Si vous avez des produits problématiques, rapportez-les chez le détaillant ou jetez-les. Quand ces pistaches sont-elles entrées au pays? On n'a pas de date précise, mais on sait que les premiers cas de maladie liés à cette éclosion ont été déclarés en mars 2025. Le plus récent bilan de l'Agence de la santé publique, publié le 24 septembre, recense 105 infections pour l'ensemble du pays, dont 66 au Québec. L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène une enquête sur cette contamination. Ne devrait-on pas simplement émettre un avis sur la consommation de pistaches iraniennes? Les autorités canadiennes préfèrent cibler les entreprises qui ont des produits problématiques et commander des rappels à la pièce. À Montréal, la ville est mandataire du MAPAQ pour l'application des lois provinciales en matière d'hygiène et de salubrité des aliments sur son territoire. Dans le cas des pistaches contaminées, la division des aliments fait aussi des vérifications pour accompagner les entreprises dans les solutions à déployer pour garantir la sécurité et la santé du public. Elle demandera, par exemple, les processus de pasteurisation pour les entreprises qui travaillent avec des pistaches de fournisseurs qui ont eu des lots contaminés. Les transformateurs peuvent aussi faire des analyses préventives. Les grandes chaînes d'alimentation ont aussi mis en place leur processus de rappel, mais toutes ne sont pas touchées. Metro, par exemple, qui a aussi les marchés Adonis dans son groupe, où l'on travaille beaucoup avec la pistache en pâtisserie, n'a eu aucun rappel lié à cette éclosion. Chocolat Favori a retiré ses barres Dubaï à la pistache, puisque son fournisseur avait des lots contaminés. Sur les réseaux sociaux, des clients ont dit avoir été malades après avoir consommé des produits Chocolat Favori. Quels sont les risques si vous avez consommé ces noix? Les risques sont réels, rappellent les autorités de santé publique, qui précisent que les gens dont le système immunitaire est fragile, les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, sont particulièrement vulnérables à ce type d'infection à la bactérie salmonelle. L'Agence de la santé publique du Canada mentionne d'ailleurs que 75 % des cas de maladies signalés dans cette éclosion l'ont été par des femmes. Et, selon une évaluation de l'Agence, pour un cas déclaré, il y en aurait 26 autres non déclarés. La salmonellose peut provoquer de la nausée allant au vomissement, de la fièvre et de la diarrhée. Les symptômes apparaissent de 6 à 72 heures après la consommation et durent au maximum une semaine. La maladie est contagieuse et peut être mortelle. Aucun décès n'a été signalé dans ce cas-ci. On compte toutefois 16 hospitalisations dans l'ensemble du pays. C'était Que se passe-t-il avec les pistaches au Québec? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 25 septembre 2025 dans La Presse.
À quoi ressemble la vie pendant la nuit polaire? Un texte de Kieran Mulvaney, paru le 15 novembre 2025 dans National Geographic français. Ceux qui vivent près des régions polaires glacées de la Terre font l'expérience d'une nuit quasi constante chaque hiver. Dans la quatrième saison de la série américaine d'HBO True Detective, deux enquêtrices tentent de résoudre le mystère de mort mystérieuse dans la ville fictive d'Ennis, en Alaska, à une période où la nuit froide ne semble pas se terminer. On appelle ce phénomène la nuit polaire, mais à quoi correspond-il vraiment? Quand se produit-il et pourquoi? Comment les personnes et la faune qu'ils vivent le supportent-elles? Quand a lieu la nuit polaire? En termes simples, la nuit polaire désigne une période pendant laquelle le soleil ne dépasse pas la ligne de l'horizon pendant plus de 24 heures. Elle se produit en hiver, au nord du cercle polaire arctique et au sud du cercle polaire antarctique, deux lignes circumpolaires situées à 66,6 degrés de latitude nord et sud, respectivement. Plus on se rapproche des pôles, plus elle dure longtemps. Au pôle Nord, par exemple, le soleil se couche à la mi-septembre, quelques jours après l'équinoxe d'automne, et ne se lève qu'à la mi-mars, ce qui crée au pôle une nuit polaire de 179 jours. À des endroits plus éloignés des pôles, elle peut durer environ 24 heures lors du solstice d'hiver. La ville d'Udjiagvik, en Alaska, le village le plus septentrional des États-Unis, qui a probablement servi d'inspiration à la fictive ville d'Ennis dans True Detective, connaît environ 65 jours de nuit polaire chaque année, de la mi-novembre à la mi-janvier ou à la fin janvier. Malgré son nom, la nuit polaire n'est pas un bloc continu de nuit pure. La lumière du soleil reste réfractée à l'horizon même quand le soleil est couché. Ainsi, à de nombreuses latitudes, la plupart des jours peuvent être dominés par différentes phases de crépuscule polaire. Comme partout ailleurs sur Terre, il fait généralement plus clair en milieu de journée car le soleil monte vers l'horizon et s'en éloigne sans jamais le dépasser. Ce qu'on appelle le crépuscule civil peut offrir suffisamment de lumière pour permettre aux gens de poursuivre leurs activités en plein air, tandis que le crépuscule astronomique est si sombre que les seules lumières naturelles sont les étoiles, la lune et les aurores boréales qui dansent et scintillent dans un ciel dégagé. Cette sémantique ne change pas le fait que, pour les habitants de l'Arctique ou les personnes qui résident dans les stations de recherche de l'Antarctique, la nuit polaire peut être une véritable épreuve. Comment est la vie sous la nuit polaire? L'absence de repères familiers et de cycles diurnes nocturnes peut affecter les rythmes circadiens et perturber le sommeil. En outre, le manque perpétuel de lumière du jour sape souvent l'énergie. Cependant, vivre la longue nuit polaire n'est pas perturbant pour tout le monde et de nombreux habitants apprécient l'expérience. Comme l'explique à la radio américaine NPR, un habitant du Svalbard, un archipel norvégien situé dans la région de la mer de Barents, il faut voir la beauté dans l'obscurité. Ce qui n'est pas du tout difficile pour moi. Je me sens encore plus proche de la nature lorsque je marche dans l'obscurité. Les habitants de l'Arctique font ce qu'ils peuvent pour lutter contre la déprime que peut provoquer la longue nuit, que ce soit en utilisant des lampes de luminothérapie qui reproduisent les longueurs d'onde de la lumière du soleil, en maintenant simplement une routine, en restant physiquement actif et en participant à autant d'activités sociales que possible, bien que ces deux dernières options soit limité par le froid glacial qui accompagne le long crépuscule. À Udjiagvik, par exemple, les températures sont de moins 27 degrés Celsius en moyenne en janvier, tandis que la municipalité norvégienne de Kautokeino a récemment vu le mercure descendre en dessous de moins 40 degrés Celsius lors de la nuit la plus froide depuis 25 ans. Les humains ne sont pas les seuls à devoir s'adapter au froid et à l'obscurité. Sur Terre, les lemmings et les campagnols s'enfouissent profondément dans le manteau neigeux pour se nourrir des graines de l'année précédente, tandis que les spermophiles arctiques choisissent d'hiberner et que les ours polaires peuvent même se terrer au pire de l'hiver pour se mettre à l'abri. De nombreux animaux adaptent leur rythme quotidien en se nourrissant et en dormant partout au long de la journée sur de toutes petites périodes pour économiser de l'énergie. Les yeux des rennes brillent en bleu en hiver en raison d'une adaptation qui leur permet de trouver plus facilement le lichen dont ils se nourrissent pendant les mois d'obscurité. Dans la mer, le zooplancton poursuit sa migration quotidienne des eaux profondes vers la surface en suivant la lumière de la lune. Un phénomène qui change avec le climat. Même les régions polaires sombres et froides subissent les effets du changement climatique qui, ironiquement, a apporté à la fois davantage et moins de lumière à la nuit polaire. La glace de mer amincie par le réchauffement des températures libère le passage pour davantage de navires et la pollution lumineuse qui en résulte affecte probablement le comportement des organismes marins à plus de 180 mètres sous la surface. Dans certaines régions de l'Arctique, comme le Svalbard, le réchauffement des températures a entraîné une réduction de la couverture neigeuse et une limitation des pluies hivernales, ce qui rend la saison la plus noire encore plus sombre et plus difficile à vivre. C'était « À quoi ressemble la vie pendant la nuit polaire ?»
Un Game of Thrones québécois, bientôt possible. Un texte de Étienne Paré, paru le 13 novembre 2025 dans la presse. L'intelligence artificielle, IA, est souvent présentée comme une menace dans l'industrie audiovisuelle, où plusieurs craignent d'être remplacés par cette technologie qui progresse à la vitesse grand V. Or, un nouveau rapport laisse plutôt entendre que l'IA est une chance pour la culture québécoise. Dans un avenir rapproché, il serait possible de réaliser ici des films et des séries capable de jouer dans la cour des super-productions américaines en matière d'envergure. Il faut arrêter de démoniser l'IA. Il faut plutôt élever les connaissances et les compétences des créateurs pour qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de leur métier, martèle en entrevue avec la presse la chercheuse Louise-Hélène Paquette, qui signe ce rapport commandé par l'Institut national de l'image et du son, INIS. L'INIS offre différentes formations pour des professionnels de l'industrie audiovisuelle. Ce rapport doit servir de carcan à l'Institut pour adapter ses différents programmes à la réalité de l'industrie d'ici les trois prochaines années. Au fil des pages, il y est beaucoup question d'intelligence artificielle. Pour son autrice, il est essentiel que l'industrie forme ses travailleurs. Le Québec ne peut pas se permettre de manquer le bateau. L'IA offre aujourd'hui des leviers qui vont nous permettre de concurrencer ce qui se fait à l'international en termes d'envergure technique. C'est à portée de main financièrement maintenant, grâce à l'IA. Ce n'est plus juste réservé aux grands studios américains qui ont des moyens, souligne Louise-Hélène Paquette. Bientôt, une première série québécoise conçue avec l'IA? Le réalisateur Jean-François Pouliot, La Grande Séduction, La Guerre des Tuques 3D, travaille beaucoup ces jours-ci avec l'intelligence artificielle pour une série d'époque adaptée de la trilogie à succès de Christine Brouillette, Marie Laflamme. Le projet est encore embryonnaire, mais si tout va bien, il espère le présenter à des diffuseurs en 2026. Campé en Nouvelle-France, une production aussi ambitieuse aurait été inimaginable il y a encore quelques années au Québec, où rares sont les séries qui disposent d'un budget dépassant le million de dollars l'épisode. Aucun diffuseur n'aurait voulu embarquer dans l'aventure, surtout en cette période trouble où les revenus manquent à cause de l'exode des annonceurs. Mais avec l'IA, on pourrait faire un genre de Game of Thrones québécois qui se déroule en Nouvelle-France, avec juste un peu plus de budget que ce que l'on a en ce moment, croit Jean-François Pouliot, qui compte aller chercher également des sources de revenus de l'étranger pour financer sa série. Il voit dans l'IA un moyen de produire des séries qui soient capables d'attirer l'attention à l'étranger. Concevoir nos séries uniquement pour le marché québécois appartient à une époque révolue, croit le réalisateur. La culture au Québec a été largement portée par la télévision historiquement, on le sait. Ça a offert à nos produits culturels un marché géographique qui paraissait comme une protection, une bulle. Mais cette bulle est en train de disparaître. Nos jeunes ne regarderont pas le contenu local s'il n'est pas disponible à l'international, affirme Jean-François Pouliot. L'IA nous offre aujourd'hui la possibilité d'avoir des productions d'envergure qui sont capables de s'exporter partout dans le monde. Si sa série voit le jour au petit écran, l'intelligence artificielle servirait surtout à créer des décors qui seraient beaucoup trop chers à mettre en place dans des studios de cinéma. Si l'intelligence artificielle générative arrive aujourd'hui à créer de toutes pièces des acteurs qui paraissent véridiques, Jean-François Pouliot tient à avoir recours à de réels comédiens quand même. Hormis pour les scènes en plan large où les acteurs seront doublés par leur avatar généré par IA. Les acteurs jouent déjà avec des doublures pour les cascades. Mais je ne veux pas d'un avatar pour toute la série, ne serait-ce que parce qu'un projet évolue justement grâce au travail de création d'un acteur, raisonne Jean-François Pouliot, qui a fait partie des personnes consultées dans ce rapport, commandé par l'INIS. Pas un substitut au talent. Selon lui, l'utilisation de l'intelligence artificielle a besoin d'être encadrée légalement. Des questionnements éthiques doivent se poser. Mais il est d'avis que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les acteurs, en chair et en os. Même chose pour les scénaristes. L'IA peut être d'une grande aide pour la recherche ou pour trouver l'inspiration, par exemple. Mais sachant qu'elle se nourrit de ce qui existe déjà, elle n'arrivera jamais à accoucher de dialogues d'une aussi grande originalité que celle d'un auteur, rappelle-t-il. L'IA n'est pas un substitut au talent, et ça ne le sera jamais. Il y a beaucoup de craintes autour de l'IA, mais ceux qui l'intègrent dans leur métier en ce moment paniquent beaucoup moins. Ils se rendent compte que c'est encore le créateur qui contrôle la création, abonde Stéphanie Verrier, directrice du développement des programmes de formation à l'INIS. L'intelligence artificielle ne remplacera peut-être pas les créateurs, mais elle changera assurément les façons de faire sur les plateaux de tournage et en post-production. Est-ce que certains métiers plus techniques pourraient disparaître? Plus je travaille sur mon projet, plus je réalise que ça n'a plus de bon sens d'avoir 100 personnes sur un plateau à l'extérieur, de faire déplacer 22 camions et d'avoir un décor qui coûte 300 000 $. Je pense qu'il y a moyen de faire plus efficace, reconnaît le réalisateur Jean-François Pouliot. L'autrice de l'étude commandée par l'INIS préfère pour sa part parler de gains de compétences. Il n'y a plus personne qui peut s'asseoir sur des compétences acquises dans le passé. Je pense que c'est ça, le message clé de cette étude, résume Louise-Hélène Paquette. C'était un Game of Thrones québécois, bientôt possible, un texte de Étienne Paré paru le 13 novembre 2025 dans la presse.